Radio Capi à 9 ans le 25 février. Au Capi Service, faites l'événement avec les étudiants du Congo. De 9h à 11h, vendredi 25 février, toute l'équipe sera en direct de l'amphithéâtre de l'Université catholique du Congo. À l'affiche, le vécu quotidien de l'étudiant en RDC, le processus électoral et tant d'autres sujets. Au Capi Service, émission spéciale anniversaire ce vendredi 25 février à partir de 9h, heure de Kinshasa.
Que dit la loi congolaise à propos des menaces de mort? Il peut arriver que vous soyez victime de menaces de mort verbales ou au téléphone. Celles-ci peuvent provenir de votre entourage ou encore de personnes non autrement identifiées. Vous vous sentez en insécurité et cela vous préoccupe au plus haut point. Le législateur congolais a prévu à cet effet une procédure légale pour porter plainte. Quelles sont ses dispositions? Jérôme Nongo, praticien de droit, est notre invité ce matin. Bonjour Jérôme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par menace de mort?
Oui, merci pour la question. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans votre studio. Je dis par menace de mort, il y a deux sortes de menaces. Il y a la menace de mort et la menace verbale. La loi, en son article, le code pénal, en son article 159 et ainsi limité, sera condamné à une poursuite pénale de 3 mois à 2 ans et à une amende de 50 à 500 francs ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé avec ordre ou sous condition d'un attentat contre les personnes ou les propriétés d'une cible d'au moins 5 années de servitude pénale. C'est cet article, l'article 159 du Code pénal, qui réprime le menace de mort que quelqu'un proférerait à l'endroit de son semblable.
Voilà, donc vous avez dit les menaces peuvent être verbales ou ça peut être fait par écrit?
Oui, par écrit ou verbalement.
Ça peut être également par SMS?
Oui, par écrit, mais il se posera le problème de la preuve. À ce moment-là, il faudra recourir à l'expertise des sociétés de télécommunications pour dire la matérialité de cette menace-là.
Alors, lorsqu'une personne reçoit des menaces, des morts, par exemple par téléphone, un inconnu qui vous appelle, alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
À ce moment-là, l'État a institué des organes auprès de qui on peut recourir. On peut soit s'adresser à l'OPJ de la police nationale ou directement aller au parquet de manière à porter sa plainte ou enfin saisir directement le juge de paix, parfois des citations directes qui pourra actionner l'action publique.
Voilà, vous avez des questions, des réactions, des témoignages par rapport à ce sujet, la menace de mort, appelez-nous au 081-890-63-94. Alors, si c'est des menaces qui proviennent, par exemple, d'une personne très bien connue, et d'autres menaces peuvent provenir d'une personne d'un inconnu, alors comment gérer les deux cas?
Bon, la loi n'a pas de sentiment. La loi réprime tout. Quiconque pourra proférer de menaces à l'endroit de son semblable, que ce soit votre épouse, que ce soit votre enfant, que ce soit votre frère, que ce soit un inconnu. Et si le problème se posera au cas où ces menaces émaneraient d'un inconnu, au cas contraire, dans ce cas-là, on pourra ouvrir un dossier à charge d'inconnu et par les recherches juridictionnelles essayer d'identifier l'auteur de ces menaces-là. Mais on n'a pas fait une nuance entre les menaces verbales et des menaces de mort. On peut aussi avoir des menaces, ne promettant pas nécessairement la mort, mais on peut faire l'objet d'une menace, et cette menace est légère et n'est punissable que de 8 jours à une année, ou d'une amende, ou de l'une de ces peines seulement, alors que la menace d'attentat qu'on appelle la menace de mort est punissable de 3 mois à 2 ans de servitude pénale et d'une peine d'amende ou de ces peines simplement. Mais toutes ces incriminations-là sont poursuivables devant le juge de paix.
Alors, par rapport à ces menaces, comment il faut des preuves? Par exemple, quelqu'un qui vous appelle avec un téléphone, avec un numéro masqué, c'est écrit inconnu, bon, un numéro inconnu, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
Oui, le problème qui se pose en matière du droit pénal, c'est celui de la preuve.
Oui.
Il y a un RSS qui dit que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue. Donc, tous ceux qui sont concernés par la violation de droits sur le plan pénal doivent nécessairement apporter la preuve de ces allégations. Et pour les cas sous examen, la personne qui fait l'objet d'une menace au niveau du téléphone, une menace sérieuse, peut, en un premier temps, pour feignant de sa sécurité, saisir l'autorité judiciaire compétente, c'est-à-dire l'office ministère public, le parquet ou le tribunal, et demander à cette autorité de pouvoir assumer les mécanismes de la production de la preuve, c'est-à-dire, par exemple, l'officier du ministère public pourra, par voie de réquisition d'information, saisir la compagnie téléphonique de manière à produire le relevé téléphonique de cette personne, et à partir de cela, on pourra déceler l'auteur de menace-là.
Voilà, ok. Ah, mais si c'est un numéro inconnu, masqué, comment est-ce qu'ils vont, on arrivera à prouver cela?
Un numéro inconnu n'est inconnu que du destinataire de la communication.
Oui.
Mais au niveau de la société des téléphonies, on peut décrypter et on peut sortir le vrai numéro en prenant en compte la minute de la communication. On peut démasquer, on peut savoir qui a émis cet appel. Et vous vous rappelez qu'il y a peu, le gouvernement inscrit toutes les sociétés de téléphonie publique de manière à ce qu'on puisse procéder à l'identification de tous les abonnés, ce qui a été fait. Donc, ce n'est plus un problème, on peut démasquer l'auteur d'un tel comportement et le punir conformément à la loi.
Il y a certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent trop de menaces, des morts par exemple, elles préfèrent quitter peut-être la ville ou le quartier, aller se réfugier ailleurs. C'est une solution?
Bon, la résignation n'est jamais une solution. Si l'État est vertu à travers le ministère de la Justice et le conseil des tribunaux, leur parquet aussi, à opérer le tirage de nos juridictions, c'est de manière à ce que celui qui se sent lésé puisse saisir les autorités compétentes. J'ai toujours dit, mais je dis qu'une chose est que la loi puisse exister, une chose en est de la connaître, une autre, il faut l'actionner au type mécanisme. C'est-à-dire, une fois qu'on est victime d'un comportement de son semblable, on a le devoir légal de saisir les autorités de manière à ce que les auteurs soient découragés de leurs actes en marge de la loi.
Les questions de réaction composées de 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capucarli.
Que dit la loi congolaise à propos des menaces de mort? Monsieur Moukoko nous appelle de Maradi en Ituri. Bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. Je voulais poser un autre sujet. Il y a des fois, on reçoit des menaces verbales, même par téléphone. On vous fasse l'SMS on vous appelle ou bien on vous laisse face à face. Alors, après quelques jours, vous pouvez faire quelque chose à vous subissez des menaces là, peut-être à votre santé, il y a les persécutions et les répercussions de santé, vous passez à la police ou bien au poste judiciaire, on vous dit qu'on ne reconnaît pas la sorcellerie, tout ça. Donc, comme je suis à Maradi,
oui, monsieur Moukoko, on est obligé d'interrompre. La qualité de la liaison téléphonique n'est pas bonne. Peut-être qu'on va vous retrouver plus tard. Benoît nous appelle de Béni. Bonjour.
Bonjour.
Votre question, Benoît.
Ma préoccupation est la suivante. Hein.
Oui.
Tout de suite, là, l'invité vient de dire que finalement, on n'a pas de sentiment. Mais nous, la population, apparemment, c'est pas ce que nous voyons. Parce que, en matière, par exemple, de menaces de mort, je suis à Béni.
Oui.
Je suis menacé par un officier supérieur, c'est-à-dire à partir des majors. L'auditorat de garnison ici n'a pas compétence pour y arrêter, par exemple. Il faut encore se rendre à Goma. Mais nous avons des territoires où même on n'a pas l'auditorat militaire, c'est que la loi des sentiments, la loi catégorise encore les gens. Ce qui est notre problème très sérieux, c'est nous, si vous dites qu'il y a un enfant de sentiment, je ne suis pas d'accord, parce que on vous dit par exemple que tout pour les militaires, il n'y a pas de situation directe. Vous pouvez aller dans un tribunal militaire, faire une situation directe pour un militaire. Et ça fait beaucoup de préjudice. L'auditeur militaire, par exemple, même quand il s'agit de quelqu'un qui fait jet, que lui, il inscrit le dossier comme il veut, comme il l'entend, et il ne fait peut-être pas. Les réponses peuvent être contestables, c'est pas facile. Et même dans la loi civile, on nous dit qu'il y a des gens, comme c'est ça, par exemple, être traduit chez l'OPJ, tel que le chef de division, grâce chef de division directeur. Mmh. Donc, je crois que ça ne nous arrange pas. Merci.
Merci, Benoît. Jérôme Nongo.
Oui, je peux réagir à la préoccupation de notre correspondant, que je salue d'ailleurs.
Benoît, depuis Benoît.
Le problème de l'impunité et de privilège,
oui,
qui s'apparente à une sorte d'impunité. Vous savez, le droit, certaines procédures, certaines personnes, compte tenu des charges qu'ils exercent dans la société, notamment, vous ne pouvez pas traiter le président de la République comme un vulgaire monsieur, vous ne pouvez pas vous en prendre à des ministres ou à des députés, à des gouverneurs de province ou magistrats comme vous le voulez, mais cela n'exclut pas à ce qu'ils soient au-dessus de la loi ou qu'ils demeurent impunis. Il y a des canaux par lesquels toutes ces personnes qui jouissent des immunités, des privilèges, peuvent être déférées devant la justice.
Oui, Jérôme, il a parlé il reçoit les menaces d'un officier supérieur, donc il doit d'ailleurs aller à Goma pour porter plainte, et puis pour un officier, il n'y a pas de citation directe. Alors, il dit que il n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que la loi n'a pas de sentiment.
Oui, je dis la loi prévoit des limitations, des exceptions. Certaines personnes non. On regarde les fonctions qu'ils occupent dans la société, sont appelés à être protégés de manière particulière afin qu'ils ne puissent pas être attrayés en justice de n'importe quelle manière. Imaginez que, par exemple, je prends le cas du Premier ministre, avec les lourdes charges qu'il exerce, puisse, à la suite d'une simple dénonciation d'un voisin ou d'un compatriote qui n'est pas d'accord avec ses prises de position, être obligé à accepter cette activité et aller à tout moment répondre aux cours des tribunaux, ça poserait des problèmes. Donc, si la loi c'est les humilités, les privilèges, on suppose que ceux qui sont occupés des fonctions autres au sein de la société ont un certain comportement de retenue, de manière à ce que s'ils doivent être déférés devant la justice, il faut qu'il y ait des mécanismes qu'on puisse, par exemple, pour un député, lever les humilités de manière à obtenir des poursuites. Donc, ce sont des temps pour lesquels des procédures spéciales de suite sont organisées. Imaginez qu'un magistrat puisse être attiré devant un OPJ. Celui-là sera complexé, il ne pourra pas faire son travail. C'est comme ça que pour un magistrat, par exemple, pour le traiter un juge de paix, on va l'attirer devant le parquet général étant le parquet des grandes instances ou l'officier de police judiciaire. Voilà pour dire à notre frère que c'est la loi qui a prévu ce mécanisme, et dans un état de droit, nous devons, la loi peut être mauvaise, comme il l'estime malheureusement, mais c'est la loi, il faudrait que les députés, les représentants de la loi, puissent travailler de manière à suivre ces privilèges des députés qui réellement devront les reconnaître, pose des problèmes d'impunité au sein de toute la société.
Voilà, Norbert nous appelle de Tananga et Zadi de Bounia. Norbert, bonjour.
Je dis d'ailleurs cachement bonjour à tous les auditeurs de la radio Kaki, ainsi qu'à l'invité et les maîtres télépensés.
Jérôme Nongo.
Jérôme Nongo.
Ouais.
Je voulais me poser un peu la question à l'invité.
Oui.
Vous imaginez, et moi je ne suis pas d'accord avec l'invité quand il parle que la loi ne connaît pas ça. Alors si on dit que la prudence est la mère de la sûreté. Donc c'est à partir de la prudence qu'on peut éviter tout danger. Vous vous imaginez à quoi on en a ici. Par exemple, il y a le menace de mort. Et je me déplace pour aller ailleurs, par exemple à Kinshasa, je quitte même pour aller à l'Afrique du Sud. C'est un exemple que j'ai donné.
Oui.
Mais c'est pas que j'ai évité les dangers qui pouvaient venir vers moi. Pourquoi il ne dit pas que ce n'est pas la solution. Deuxième question, moi je trouve aussi que si on pouvait avoir les numéros verts, c'est-à-dire dès qu'il y a un problème, menace de mort directement, on a que à ce numéro-là. En fait, ce sont les autorités qu'on va parler avec les autorités politico-administratives. Par exemple, les gens de la tribunaux, on peut parler avec eux pour dire que non, voyez, il y a ceci, il y a ceci. Vous pouvez envoyer autant de gens pour qu'ils puissent venir me sécuriser. Mais pourquoi l'invité refuse tout ça? Alors, c'est ça un peu ma préoccupation.
Oui, merci.
Je suis d'accord avec lui, mais il faut qu'il puisse me répondre concernant mes deux questions.
Merci à Norbert de Kananga. Zadi nous appelle de Bounia. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'avais des préoccupations suivant la présentation de ce sujet qui m'a écrit ce téléphone aujourd'hui.
Oui.
Quand l'invité nous a parlé de ce que si une personne est menacée, soit par des messages ou bien des menaces verbales.
Oui.
Bon, voilà par exemple que vous êtes appelé, quelqu'un vous dit que non, attaché avec vous, je vais vous assassiner ou bien vous allez voir ce dossier avec moi. Alors, la personne qui vous a appelé, ce numéro est inconnu chez vous. Là, il est parti s'enregistrer, il a donné une fausse identité, soit prenez par exemple une personne de Boutonde, il vient à Bounia, il nous a enregistré tout juste en d'accord, il prend le numéro avec une fausse identité, et il revient là-bas, Boutonde, pour aller menacer la personne avec laquelle il a le dossier.
Mmh.
Est-ce que vraiment la maison, parce qu'on pouvait arriver à répertorier la personne qui a connu cette menace? Je ne sais pas si comment le député peut nous intéresser à propos de ça. Deuxième chose.
Oui.
Quand vous menace, par exemple, une personne a commencé quand même que précisément que il va vous poursuivre, vous avez des yeux louches avec lui, il va soit que vous assassinez, mais il n'a pas dit ça précisément que vous, il a dit ça à une première personne.
Oui.
Alors, cette personne aussi ne vous a pas suivi directement pour vous dire ça, mais on est allé dire aussi ça à une autre personne, vous avez appris ça à l'aujourd'hui, mais vous êtes dans une chose qui est une réalité que les gens ne me craignent de vous le dire clairement. Qui est la personne qu'on doit poursuivre dans ce dossier, est-ce qu'il faut que suivre la personne qui avait écouté aussi, si elle avait parlé dans la rue ou bien d'être seul pour se dire, je ne sais pas comment vous pouvez me répondre à propos de ça.
Merci Zadi pour ces deux questions. Jérôme Mongo, la première question de Norbert, il dit, d'après lui, il estime qu'il est important de se déplacer quand on est menacé parce qu'on peut y laisser sa peau.
Par rapport à la question de Norbert qui nous appelle, je ne sais pas de lui, ça, les gens agir un bon père de famille. Mais ce sont, c'est une personne de France pour laquelle je n'ai pas.
Jérôme, il y a un problème de liaison téléphonique. Si c'est possible de vous déplacer un tout petit peu, peut-être que ça
peut. Je me déplace, maintenant je crois que ça va.
Oui, ça va, allez-y.
Le droit d'utiliser l'expression d'un bon père de famille. Un bon père de famille, c'est cette personne d'intelligence moyenne. Qui n'est pas un savant, qui n'est pas non plus un idiot, qui prend des mesures qui s'imposent dans une situation précise.
Oui.
Pour revenir à la préoccupation de notre correspondant Norbert de Kananga,
oui.
C'est vrai, quand on fait l'objet de menaces, on est effrayé, le réflexe est de citoyen, mais moi je crois que l'État fait un effort pour nous donner une plus de proximité, pour faire de sorte qu'il y ait parquet et des cours de tribunaux dans nos environs, de manière à ce qu'une fois qu'on fait l'objet de tel comportement, on peut s'adresser aux autorités et au besoin de demander la protection rapprochée de la police, de manière à ce qu'on puisse mener des enquêtes à découvrir l'auteur de telles menaces et les réprimer au besoin. Aller à la police, aller à l'extérieur du pays ou changer de province, je ne sais pas que. C'est pas tout le monde qui a le moyen de se dire, imaginez que si le Congolais était appelé à se passer comme ça, qui serait en sorte de. Moi, je crois que nous devons faire pour défendre nos droits, en étant là-bas, et en essayant d'actionner les mécanismes que l'État a mis sur place.
Alors, Norbert propose également si on peut installer un numéro vert par lequel une personne menacée peut appeler pour trouver assistance.
Oui, d'accord. Et la police, on sait que. Et elle fait cet effort-là, elle fournit un effort, et dans la plupart de nos districts, dans la plupart de nos administrations policières, il y a des numéros verts qui sont mis à la disposition la population comme ici à Kinshasa, la police nationale a fait cet effort. Dès qu'on a des problèmes de nuit comme de nuit, on peut les appeler de manière à ce qu'on puisse exercer ce droit et pouvoir protéger au besoin.
Alors, Zahabi, depuis Bounia, vous faites cette question par rapport à l'identité. Une personne qui est par exemple à Bounia, qui se déplace, qui va se faire enregistrer dans une société de téléphonie cellulaire à Boutembo, avec une fausse identité, elle revient à Bounia pour menacer quelqu'un au téléphone avec un numéro masqué. Comment on peut arriver à mettre la main sur une telle personne?
Oui, il y a une fausse identité. C'est un problème de mobilité de la population congolaise et de l'identité. C'est vrai, c'est pour ça que le parquet met ce qu'on appelle l'enquête préjudicielle. Il va essayer d'identifier la personne en recourant aux opérateurs téléphoniques. Et c'est pour ça qu'on demande. C'est un travail qui demande la rigueur à tous les niveaux de l'État, tant au niveau des sociétés de téléphonie publiques, tant au niveau de l'administration, le ministère de l'Intérieur, les services de l'État civil. Il faut que les Congolais soient sérieux, puissent être identifiés de manière à ce que, une fois qu'on a besoin d'un citoyen, on fait rechercher un kidnapping, qu'on ne puisse pas tomber sur des effets, ce qui ne sont pas bons. Et c'est ça le problème. Donc, cela dépend aussi du civil. C'est ainsi que le ministère public peut être appelé à classer un dossier pour discuter de retrouver un prévenu. Et le moment où on pourra avoir des éléments sur lui, on pourra nécessairement réactionner ces dossiers et au besoin mettre sur lui tant que la prescription ne va pas courir.
Voilà, Jérôme Ezadi pose une autre question. Il apprend d'une tierce personne que telle personne a menacé de l'assassiner. Et alors, il s'est dit, il va porter plainte contre qui? Contre la personne qui a raconté à une autre personne, il va porter plainte contre les deux ou les trois, là, quoi.
La plainte peut être portée qu'à charge de l'auteur de menace, soit de co-auteur, de complice éventuel. La personne qui vous fait la nouvelle que vous faites l'objet d'une menace de la part de X, n'essaiera que le moment venu qu'un témoin à charge, c'est-à-dire le moment venu lorsque le juge ou le ministère public ou voire même l'OPJ voudrait établir des faits, interroger concerné, il fera appel à cette personne-là qui va porter la nouvelle comme témoin à charge de manière à ce qu'il puisse répéter, de manière à ce qu'il puisse donner les circonstances dans lesquelles ces menaces-là ont été proférées.
Voilà, Fidèle nous appelle de Kananga et Delphonse est à Kisangani. Fidèle, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama.
On vous écoute.
Bon, je voulais poser la question, mais avant, je veux dire ceci. Je suis journaliste à Kananga. Je reçois, je diffuse une information sur un homme politique et ensuite il vient me menacer, m'agacer. Et par après, quand il rentre, c'est quelques heures après que je reçois des menaces de mort, du texto et des appels même avec un numéro inconnu. Mais là, je veux savoir, je vais porter plainte contre qui? Contre ce leader politique ou bien contre l'inconnu?
Merci. Idelfons Akisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute?
Bon, je voulais dire ceci.
Oui.
Est-ce qu'il est facile pour toute la catégorie de population d'atteindre la justice, c'est-à-dire sur toute la classe de la population inférieure, de minutes de moyens, en ce qui concerne des cas frais?
Merci, Saïd Jérôme. Merci. Jérôme Longo.
Oui, je commence par la première préoccupation de notre frère de Kananga.
Oui.
Il fait l'objet de menace de la part d'un homme politique qui est venu faire un meeting dans sa province. Et aussitôt parce que ses partisans viennent se questionner contre lui. Lors de la commission d'infraction, il y a des auteurs intellectuels et des auteurs matériels.
Non, il dit ceci, il est journaliste, il reçoit un homme politique. Après l'émission, bon, les propos qui ont été dit ne l'ont pas plu et il menace le journaliste après.
Il le menace quoi?
Il est des menaces de mort, des textos, voilà. Et il se dit, bon, il faut porter plainte contre lui ou contre un inconnu.
Mais pas que l'auteur, c'est une menace là. Chacun répond. La personne est inculpée, le grand politique devra répondre de son comportement de menace qu'il a proféré devant le journaliste. Et pour ses partisans, eux aussi, ils pourront répondre individuellement des faits dont ils se seront passés coupables. Et le fait de partisans de l'homme politique, éventuellement pour avoir incité ces militants à se déchaîner sur le journaliste pourra être retenu comme auteur intellectuel de cette infraction-là.
Voilà, et Delphonse parle de la population démunie qui n'a pas de moyens, qui reçoit des menaces de mort. Comment va-t-elle chercher à ce que la justice tranche le problème sans moyens?
Bon, là, c'est que de fait, la justice est gratuite, hein, elle est rendue en principe en gratuité, et l'État a prévu qu'il y ait des tribunaux de paix au niveau de chaque territoire ou commune de notre pays, et fait que l'engagement de 1000 magistrats d'abord et les 1000 autres qui vont commencer bientôt, c'est une politique de fémage pour faire. Donc, notre pays a l'expression d'un continent, c'est un travail énorme. Je crois que l'exécutif, le gouvernement qui a la chance de la gestion du pays au quotidien, devrait comprendre cet impératif de manière à ce que la justice soit rapprochée de la population pour que la justice soit distribuée à cette population au moment voulu.
Jérôme Longo, praticien du droit, je vous remercie.
Je vous remercie aussi et à la prochaine fois.
Okay.